este tiempo presente y que hablar de amor y de flores olvidar.
Bueno, vous êtes sur la clé des ondes de 90.10. On va revenir aux choses plus, je dirais, moins élevées, pour un peu plus réalistes. Le collectif contre la dette a organisé un meeting à Bordeaux. Et donc, dans ce meeting, il y avait Gérard Filoche qui est intervenu et qui a fait une prestation de 20 minutes très intéressante. On va se l'écouter. Clé des ondes, 90.10, on écoute.
7h20 le matin, Dominique Seux qui a remplacé Jean-Marc Sylvestre. Et alors, les clichés qui sont fourrés dans la tête des gens, c'est à cela que je voudrais, comme nous tous, nous attaquer. Un État, c'est comme un ménage, ça ne peut pas dépenser plus que ça gagne. Qui paye ses dettes s'enrichit. Pour nos petits-enfants, il ne faut pas leur laisser les dettes en l'état où elles sont. Et vous en avez tous les jours, de cette façon-là, on dépense trop. Il faut arrêter de dépenser trop. Bon alors, vous êtes une salle avertie, mais quand même, c'est à ça qu'on doit répondre au-delà de cette salle avertie. C'est dit comme des clichés insupportables. Alors un État, il ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne, mais ce n'est pas un ménage, un État. Et il peut, il doit dépenser plus que ce qu'il gagne. C'est même nécessaire, il y a des bonnes dettes. Et quand on nous dit faut faire l'équilibre zéro, alors j'ai comme beaucoup d'entre nous argumenté longuement contre la foutue règle d'or qu'on cherche à nous imposer. Depuis, je m'économise en citant quelqu'un que je ne citais pas d'habitude, c'est Jacques Delors. Il a dit c'est un piège à con. Alors depuis, je m'épargne du vocabulaire, je cite Jacques Delors. C'est un piège à con. Il y a un dictateur pendant 40 ans, entre 1934 et 1974 en Europe, qui a imposé la règle d'or. Il ne voulait pas qu'il y ait à la fin de chaque budget un escudo qui manque par rapport à ceux qui avaient été qui étaient rentrés dans les caisses. C'était le docteur Salazar. Et il a, en imposant la règle d'or pendant 40 ans, fait du Portugal le pays le plus pauvre d'Europe. Citez cet exemple. Parce que c'est quand même... Il y a 17 États dans l'euro, c'est 17 Portugal qu'ils veulent faire. 17 fois le Portugal. Et la façon de gérer ce déficit zéro, alors les gens parfois croient encore que c'est 3 points, comme à Maastricht, pour ceux qui savent. Non, maintenant on est à 0 ou 0,5, ils ont fait une petite variante, pour que ça soit complètement fermé. Et c'est comme en Allemagne, nous dit-on, la règle d'or. Enfin, en Allemagne, elle existe, à ce que je sais, dans la Constitution depuis 1949. C'est pas d'aujourd'hui. Et elle a été violée, on a calculé, 12 fois. C'est-à-dire que quand ils vous le donnent en exemple, ils ne vous donnent pas un exemple fiable, ils vous donnent un exemple qu'elle n'a jamais tenu, en vérité. Et bien entendu qu'un Parlement, qu'une République, que des assemblées élues peuvent gérer et décider des déficits qu'ils souhaitent faire, de l'orientation de ces déficits, et que des dettes sont bonnes. C'est bon des dettes pour des hôpitaux, c'est bon des dettes pour des écoles, c'est bon des dettes pour des équipements collectifs, c'est même tellement bon que ce n'est pas des dettes, c'est un investissement. Évidemment, à la fin de l'année, en termes de budget, ça peut se traduire par des difficultés. Vous avez deux choix, soit vous poursuivez l'investissement et ça rentrera ensuite, soit vous ne le poursuivez pas. Et si vous ne le poursuivez pas, ben vous faites quoi? Au mois de novembre, vous fermez les hôpitaux, au mois d'octobre, vous fermez les écoles. Parce qu'il faut respecter la règle d'or et que budgétairement, il ne doit pas y avoir un euro de moins à l'arrivée. C'est quand même une aberration d'avoir à l'échelle d'un continent intelligent quand même, cultivé, avec un niveau culturel, avec une démocratie. Chercher à imposer un pacte budgétaire qui vous étrangle d'avance, qui vous annonce qu'il va vous étrangler et qui vous impose ça de façon absurde, sans horizon illimité, en vous disant qu'en plus, il y aura des sanctions automatiques. Si vous ne le respectez pas, quand même, du point de vue de la somme des aberrations et des insultes à l'intelligence, il n'y a pas besoin d'être un grand économiste, on peut être un citoyen ordinaire et comprendre qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. D'autant plus que quand ils le veulent, ils ne le respectent pas. Tout le monde se souvient que Sarkozy lui-même était allé voir Merkel il y a 4 ans en disant « on va dépasser les 3%. » Et tout le monde sait que quand ils finissent le budget militaire après l'Afghanistan et la Libye, ils ont 1 milliard de trous qu'ils n'avaient pas planifiés au début et qui s'asseyent sur leurs propres règles d'or, budget par budget, quand ça les arrange. Et en conséquence que non seulement c'est absurde, non seulement c'est défaitiste du point de vue du fonctionnement, du développement d'une société, mais en plus c'est hypocrite, et qu'évidemment, quand bien même ils l'auront voté, ils ne le feront pas, et qu'il y aura des disputes éternelles entre chacun d'eux, autour de la table des chefs d'État, puis ensuite de la Cour de justice européenne, pour savoir comment ils interprètent le 0,5. Est-ce que cette année on peut faire 0,5? Et s'il fait 0,6, on fait une sanction? Et si c'est 0,4, on ordonne? Enfin, il y a quelque chose, je crois que j'invoque l'intelligence, capacité intellectuelle élémentaire, contre quelque chose d'aussi bourrin, d'aussi absurde et d'aussi scandaleux. Eh, ça passe, un État ne doit pas dépenser plus que ce qu'il gagne, c'est comme un ménage. Alors les gens se disent, c'est vrai, j'ai du mal, moi dans mon ménage, je ne peux pas faire autrement, ils me prennent les dettes. Alors bon, tout le monde connaît la célèbre phrase attribuée à Keynes, c'est quand vous devez 100 euros à votre banquier, et vous êtes entre les mains du banquier, il va vous faire un découvert, mais quand vous lui devez 100 millions d'euros, c'est le banquier qui a un problème, c'est pas vous. Et évidemment, le rapport de force n'est pas le même entre un ménage, mais on essaie de le faire croire, un État et des États. Alors après, les dettes, la Grèce. Vous avez tous entendu, on ne parle que de ça, mais de façon odieuse. C'est comme une guerre. Parce que quelque part, l'euro et l'Europe, on nous a dit, ça va éviter les guerres. Mais il y a un langage de guerre contre les Grecs. Il y a du racisme ethnique, il y a de la haine. Il a été, moi, je vois des gens qui sur les internets, disent, il y en a assez de payer pour les Grecs. Comme si on payait quelque chose pour les Grecs. Enfin, d'abord, les Grecs, ils ne reçoivent rien, surtout. Parce que quand il y a 130 milliards d'aides pour les Grecs, c'est aux banques, c'est pas les Grecs qui reçoivent. Et même la dispute jusqu'à hier, c'était, il reste encore 385 millions d'euros à leur extorquer, sur leurs retraites, sur leurs salaires, sur leurs hôpitaux, sur leurs écoles, sur leurs services publics, 385 millions d'euros, avant de donner la tranche de 130 milliards à qui? Aux banques, auxquelles les Grecs sont censés avoir des dettes. Alors la dette grecque, on peut la décomposer à perte de vue, parce que, vous savez, la première partie de la dette, ça remonte au colonel, hein. Ça, c'est 1967, 1974, ils ont multiplié la dette de la Grèce par 4. Moi, je me souviens bien, j'étais 65, je manifestais à Athènes, j'étais parti de Rouen à Athènes en stop, il y avait des gaz lacrymogènes tout l'été, c'est mon premier mai 68 à moi, et on criait « Ena, Ena, Tessera ». C'était l'article 114 de la Constitution grecque qui empêchait le roi Constantin de virer le grand-père Pape André ou à l'époque. « Ena, Ena, Tessera », article 114. Et ça, il y avait un grand mouvement social, mais c'est la dictature qui a gagné. Et la dictature, les colonels atrocement, pendant 7 ans, ont saigné la Grèce. Et ils ont fait une telle dette que ça a commencé à aller très très mal. Et quand ils sont tombés, c'est-à-dire en 75, il y a eu un mouvement étudiant, puis un mouvement syndical. Et il y a eu une négociation un peu avec la haute bourgeoisie qui a lâché tomber les colonels, à une condition, c'est qu'il y ait dans la constitution de 75, une règle d'or, un peu étrange et spécifique, c'est que les armateurs, principale puissance économique du pays, et l'Église orthodoxe, principal propriétaire foncier du pays, ne paye pas d'impôts. Ils l'ont mis dans la Constitution. Donc depuis 1975, en gros, l'oligarchie grecque ne paie pas d'impôts. Alors vous avez sur TF1 des reportages, on vous montre un pauvre grec qui dit « Oh, l'autre là-bas, il a payé sa maison, mais il n'a pas payé d'impôts. Enfin, » vous seriez grec, vous n'auriez pas envie d'en payer non plus. Hein. Dans la mesure où l'oligarchie est totalement dispensée, pourquoi payez-vous des impôts, vous? Ou alors il faut que tout le monde en paye, mais non, il faut changer la Constitution. Croyez-vous que l'Union Européenne, la Troïka, l'UE, la BCE et la FMI, quand ils viennent à Athènes, disent « changez la Constitution et faites payer les armateurs et l'Église orthodoxe » Pas du tout. Ils disent « faites payer le peuple ». Parce qu'ils pourraient envisager une hypothèse comme ça si on les prenait au pied de la lettre. Faites donc payer l'oligarchie. Ensuite, après, il n'y a pas que ça, il y a les sous-marins. C'est peu connu, mais enfin, c'est quand même 4 sous-marins que la droite sous Karamanlis a acheté. 1,2 milliard. Ils sont faits par qui? Par ThyssenKrupp. Et il faut les. Et Merkel, quand elle dit ramener l'argent, c'est pour payer ses sous-marins, qui évidemment n'ont aucun intérêt pour les Grecs, c'est au nom d'une guerre potentielle avec la Turquie, depuis la défaite, comme ils disent, de 1929. Bon, mais en vérité, les premiers, l'armement par rapport au produit intérieur brut, le premier pays, c'est les États-Unis, le deuxième, c'est la France, le troisième, c'est la Grèce, et le quatrième, c'est la Turquie. Donc vous avez un gaspille là, tout à fait considérable. Croyez-vous que les gens de l'UE. Moi, j'ai vu Le Monde, vous savez, il disait « la task force de l'Union européenne arrive à Athènes ». Ce n'est pas avec des médailles et des uniformes, c'est avec des costumes gris et des attachés-caisses. La mode n'est plus du tout comme du temps des colonels de 67-74. Mais le résultat est le même, ils viennent, ils ne disent pas « rendez les sous-marins à Merkel ». Ils disent « faut payer les sous-marins et baisser vos salaires ».
Donc le SMIC doit descendre de 750 euros à 600, même un peu plus, à 22% de réduction, donc à 584 euros, donc encore plus bas pour les jeunes, si c'est possible. C'est ce qu'ils exigent. Pas du tout de supprimer la question des sous-marins et de l'armement militaire. Il y a même eu un débat hier pour savoir s'il y avait une pression pour baisser les achats pour l'armée, et la réponse a été non. Et ça a été confirmé, il faut baisser pour les hôpitaux. Vous avez des consultations à 120 euros. Maintenant, la Grèce est soumise. C'est comme une pandémie, c'est comme un nuage de sauterelles qui, en Afrique, débarque sur une moisson. C'est ça, l'UE, c'est la barbarie. Quand on nous fait croire que c'est les Grecs, mais vous seriez Grecs, là-bas, on leur a dit, vendez vos îles. Vendez le Parthénon. Non, mais souriez pas, on vous dira, vendez le Louvre. Vendez la Tour Eiffel. Sacrifiez vos retraites. 30% en moins dans la fonction publique. Non seulement la baisse du SMIC, mais 30 grandes sociétés vendues, le Pirée est vendu. Et là, les autres sources de la dette, vous le savez, parce qu'il y en a d'autres qui veulent se faire rembourser, ces Bouygues et puis tous les bétonneurs qui ont fait la partie d'Athènes pour les Jeux Olympiques en 2004. Puis vous avez après Goldman Sachs, croyez-vous qu'ils soient poursuivis parce qu'ils ont truqué les chiffres sous la droite? Oh, bonne farce alors. Ils truquent les chiffres sous la droite, la gauche gagne, ils disent « Ah, c'était pas ce qui était prévu, c'est 4 fois, 5 fois plus, payé ». Alors il y avait le choix pour la gauche. Parce que là-bas, Papandréou, il pouvait avoir le choix. Mais il a capitulé. Et quand il capitule, il est traître à son propre peuple. Il ne peut pas y avoir là-bas de collaboration avec une exigence de ce type. Les députés sont haïs, tous. Alors il y en a 23 qui ont démissionné du PASOK, 21 qui ont démissionné de Démocratie Nouvelle, et il y en a quelques autres, etc., presque une centaine qui ont refusé sur à peu près les 300 députés. C'est le chemin de l'honneur, hein, moi je le dis sans problème. Parce que défendre son peuple dans un cas comme ça, c'est vital. Et les gens, ils disent, oh, la dette, c'est pas si grave que ça, on peut s'endetter encore pour la... Si, c'est grave, quand ça devient un instrument politique comme ça, pour diviser un peuple, pour le matraquer, alors l'instrument politique en question, il faut le lutter de toutes ses forces. Et moi, je suis grec, vous êtes grec, et vous avez intérêt que vous êtes lié à la Grèce. Parce que ce qui est en Grèce, c'est le laboratoire, c'est le test. Pourquoi ils sont si méchants, une fois, on a dit ça dans une réunion, pourquoi ils sont si méchants? C'est parce que, vous savez, quand je faisais des tracts, j'étais jeune, c'était contre le profit. C'était pas juste, ça. C'était pas le profit. Le profit est lié, excusez-moi, à toute activité humaine gratifiante. Capitaliste, c'est pas le profit. C'est le profit maximum. Ils peuvent pas se contenter d'un petit, d'un moyen profit. La logique est de rechercher le profit maximum. Et ce qui se passe entre les banques, c'est-à-dire les États et les banques privées, c'est la célèbre histoire de la grenouille et du scorpion. Elle est connue, le scorpion est au bord du fleuve, il y a la grenouille, et lui dit « je ne peux pas traverser le fleuve, prends-moi sur ton dos ». La grenouille lui dit « non, tu vas me piquer ». Et il dit « mais j'ai pas intérêt à te piquer, parce que je ne sais pas nager, si je te pique, je vais mourir avec toi ». La grenouille réfléchit, elle dit « oui, c'est vrai, elle a raison ». Elle accepte de le prendre sur son dos. Et au milieu du fleuve, le scorpion la pique. Alors la grenouille, avant de mourir, lui dit « mais pourquoi tu as fait ça? On va mourir tous les deux, mais qu'est-ce qui te prend ?» Et l'autre dit, c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Les banques privées, c'est dans leur nature, c'est des scorpions. C'est la même chose avec les appareils d'État. C'est plus fort qu'elles. Les États sont venus les sauvegarder au moment où il y a eu les cracks en 2008. Et maintenant, comme scorpions, elles piquent les États. Alors, il n'y a qu'une seule chose, c'est se défendre des scorpions, bien entendu. Alors là, c'est pas l'UE, c'est pas la BCE, c'est pas la Troïka, c'est pas Merkel et Sarkozy. Ils sont les représentants des scorpions. Et donc eux, c'est pas eux qui combattront, je vois Sarkozy depuis hier, il s'agite. Il a fait des G2, des G8, des G12, des G20, il a même fait un G120, en disant, je lutte contre la crise, je vous proteste contre la crise. Mais la crise, c'est lui, c'est son monde, sa crise. C'est lui qui faisait campagne il y a 7 ans pour les subprimes. Pour la déréglementation boursière, pour les prêts hypothécaires. C'est lui, c'était son monde, celui du Fouquet's, qui ne vienne pas nous dire « je lutte contre », il en est le produit, le représentant éminent et mérite. Et donc, c'est ce système-là qui est en cause, derrière celui de la dette. Et alors, on peut examiner les dettes. Alors, nous avons tous signé un appel pour un audit public des dettes. Alors, il y a des dettes légitimes, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a des dettes illégitimes. Celles qu'on vous a refourguées, qu'on a multipliées par 2 fois, 3 fois, 4 fois, les scorpions rajoutant à chaque fois des intérêts. Et puis vous avez les dettes odieuses, celles qui sont tellement trafiquées dans le cadre du dos des peuples, etc., que celles-ci, vous pouvez tout de suite dire, on les annule. Alors les gens disent, mais comment on peut annuler une dette, restructurer une dette? Moi, je ne peux pas le faire tout seul avec la banque. Ben non, tout seul, non, encore que. J'explique parfois, j'ai eu besoin d'un ami, il avait reçu un héritage, il avait 10 000 euros sur une assurance vie. Alors, comme toujours, dans ce cas-là, il dit, je vais le garder pour mes enfants. Et, sauf qu'il avait droit, pour les 10 000 euros, il avait 4,90 d'intérêt. Donc il touchait 490 euros la fin de l'année. Et puis l'autre jour, il a regardé, c'était 3,25. Il lui a donné 325 euros au lieu de 490. Ils avaient changé. Et je lui ai dit, bah, tu vois, eux, ils changent. Pourquoi nous, on ne pourrait pas changer? Pourquoi c'est à sens unique? Parce que c'est important. Et puis j'ai un autre cas, j'ai un copain qui a gagné, qui a été élu maire à la mairie, à une mairie à côté de Pau, 24 000 habitants, à Billère, mon ami Jean-Yves Lalanne. Il gagne la mairie, il gère. Et là, il y a 3 mois, il regarde un emprunt qui avait été fait par le maire de droite avant. Dedans, il y avait marqué, le taux de l'emprunt était indexé sur les variations de la bourse de Varsovie. Mais comment peut-on accepter ça, quoi? Comment peut-on accepter ça? C'est bien ça, quoi. Alors, donc on peut renégocier une dette avec des arguments simples et dire qu'on peut annuler une dette, bien sûr. Alors, vous savez, il y en a d'autres qui parlent en coin, mais l'Argentine l'a fait. Alors, l'argument, c'est de dire, mais si vous annulez la dette, ils ne vous prêteront plus. Enfin, pendant un certain temps, vous n'aurez pas besoin de prêt, hein. Et ensuite, après, en Argentine, il y a même d'autres banquiers qui sont venus 6 mois après et qui ont dit, vous ne voudriez pas un petit emprunt? C'était pas les mêmes, mais ils tentaient leur chance. Donc on peut annuler une dette et ça n'empêche pas de fonctionner. C'est au contraire. C'est sain, salutaire. Ça peut se défendre. Ça doit se défendre. C'est un bras de fer. Et puis ça déculpabilise parce qu'on n'est plus tenu par la dette. Moi, quand ma petite fille est née, il y a 18 mois, j'invente pas cette histoire, ça s'est passé comme ça, c'était le matin, on m'appelle, on me dit ça s'est très bien passé, j'étais heureux, et c'était 7h20, c'était Dominique Seux sur France Inter à la radio. Et il dit, chaque enfant qui naît avec 25 000 euros de dette sur la tête. Je vous assure que j'étais colère. Parce que les journalistes qui disent ça sont des escrocs, hein, ça rentre dans la tête des gens. Mais c'est des escrocs. La dette ne se partage pas entre nous tous, sur nos têtes. D'abord, il y a les enfants de ceux qui possèdent la dette. Puis il y a les enfants de ceux auxquels on demande de la rembourser. Ma petite fille est dans la deuxième catégorie, pas dans la première. Et si vous voyez ça, vous voyez ça autrement.
C'est ta faute.
Ouais, c'est ça. Si vous voyez ça autrement, ben ça veut dire que bon, il y a donc des gens qui bénéficient de la dette, ça aussi. C'est ce qu'on peut quand même, le moins des choses, expliquer. Et que quand Sarkozy faisait un emprunt, le grand emprunt, comme il dit l'année dernière, on était déjà endettés, qu'il empruntait 35 milliards. Ils ont même discuté avec Guénot pour savoir si c'était 100 milliards. Qui rajoutait dans le trou, forcément. Alors, il ne fait plus rentrer l'impôt. Puis il dit, messieurs, mesdames les riches, vous avez de l'argent. Voulez-vous me le prêter? Je vous le prends à un bon taux et je vous le garantis. Messieurs, mesdames les riches disent, bah oui, pourquoi refuser une pareille chose? Et donc il a l'argent, puis il se tourne vers nous, il fait le total, la facture, puis il dit, bah, il faut rembourser. Donc là, vous avez la dette qui s'accroît. Et je crois que la bonne phrase, quand on arrive à le dire autour de nous, au-delà des salles militantes, c'est de dire, en France, c'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. C'est pas un problème de dette, c'est un problème de recette. On n'aurait pas de dette s'il n'avait pas baissé les recettes. En tout cas, on n'aurait pas de cette ampleur-là. Parce qu'on est passé quand même de 63 points par rapport au PIB du temps de la gauche à 89 points maintenant cette année, en ce moment où on parle. Ce qui est quand même une progression de la dette absolument substantielle. Et si on veut faire les arguments, je ne rentrerai pas dans le débat, nous sommes divers dans cette salle, avec le gouvernement Jospin, enfin, moi j'ai une seule ligne, hein. Avec la gauche, on n'a pas tout ce qu'on veut, avec la droite, on a tout ce qu'on ne veut pas. Donc c'est... Mais rappelez-vous que du temps du gouvernement Jospin, la droite faisait campagne contre la cagnotte publique. La cagnotte publique, c'est presque autant, c'est ça qu'il faut me dire. Contre la cagnotte publique, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont siphonné la cagnotte publique et rempli les cagnottes privées. C'est un transfert qu'ils ont opéré en 10 ans. Et donc ce transfert-là, c'est à nous de l'en faire à l'envers, bien entendu. Et c'est de cette façon-là qu'à la fois on peut contester la dette et qu'on peut inaugurer une autre politique qui permet de redistribuer. Parce que alors, les phrases qui suivent, j'ai plus le temps, je sens, hein, encore une minute. Le coût du travail est trop élevé. On dépense trop. Ben non, bien sûr. Les dépenses, elles ont baissé de 1996 à 2008. C'est pas là la source du déficit et c'est pas là la source de la dette. Et puis non, bien sûr, on gagne pas trop. Parce que si, comme il nous dit, c'est parce que le coût du travail est trop élevé qu'il y a du chômage, ça tient pas. En Espagne, le coût du travail est plus bas, il y a moins de chômage. En Scandinavie, le coût du travail est plus élevé. Voilà, il y a plus de chômage en Espagne. Et en Scandinavie, le coût du travail est plus élevé et il y a moins de chômage. Si c'était là où le coût du travail est le plus bas, qu'il y a moins de chômage, il n'y aurait pas de chômage en Afrique. Bon, c'est à peu près évident, faut pas raisonner. L'affaire du coût du travail, il faut augmenter le coût du travail. Ils pensent jamais qu'il faut baisser le coût du capital. C'est bien sûr ce que nous devons proposer. Et tout ça, c'est lié à la critique de la dette et de la financiarisation de l'économie telle qu'il nous l'impose. Et à partir du moment où on renvoie ces clichés, je sais qu'il faut que je termine. Je brûle pourtant d'en dire quelques autres. J'arrête. Merci de votre attention.